Les nuits de France Culture, 1h, 6h du matin. Un nom connu dans le monde entier, celui de son mari certes, mais une vraie personnalité, une femme d'exception, Clara Malraux. Sujet d'une vie, une œuvre, diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 novembre 2007. Et à noter que Claude Kiègemann vient de publier Clara Malraux, l'aventureuse, aux éditions Arléa.
Je voulais tout de la vie. Vous savez, je raconte dans le tome 2, je crois, de mes mémoires, que j'étais voir Madame de Thèbes quand j'avais 18 ans. Mais je crois qu'on ne sait plus qui est Madame de Thèbes. Enfin, c'était une illustre voyante. Quand je suis arrivée, j'étais accompagnée d'une amie. Elle n'a rien dit à l'amie. Moi, je suis entrée et elle m'a dit « Alors, en voilà encore une qui veut un bonheur plus qu'humain. » Peut-être que c'était ça que je voulais. Alors, j'ai eu aussi un malheur plus qu'humain. Peut-être que je voulais une vie pleine, quoi, une vie riche, un petit panier plein.
« Je voulais peut-être une intensité plus qu'humaine », a dit un jour Clara Malraux. « Je l'ai eue. Intensité d'une vie, vie aventureuse avec ses exaltations, ses dangers et ses blessures, vie de révolte, de passion et d'engagement. Une vie, une œuvre. Clara Malraux, une intensité plus qu'humaine, par Françoise Esteb et Nathalie Triandafilidès. Clara Malraux, un nom qu'elle n'a pas volé, dira André, un nom qui la porte et lui fait de l'ombre. Comment exister en tant qu'écrivain, face à l'auteur de la condition humaine, quand on veut depuis l'enfance écrire, laisser une trace? Pas facile, dira-t-elle, d'être à la hauteur de soi-même. On retiendra de ses écrits le bruit de nos pas, récit de sa vie qui traverse le siècle, portrait des luttes, des espérances et des désillusions d'une époque. Dans votre biographie, Claude Kiègemann...
J'appellerais ça d'ailleurs plutôt un parcours qu'une biographie. Ah, mais ça c'est moi qui l'appelle comme ça. Je pense qu'une biographie c'est 300 ou 400 pages. Moi mon livre est relativement court. Et je pense que ça lui va bien d'ailleurs, si vous voulez, parce que c'est quelqu'un de très rapide. C'est pas quelqu'un qui s'attarde sur les choses. Elle est tout le temps dans le mouvement, Clara.
Mais en même temps avec une grande constance.
Elle a une grande constance
dans
ses idées et dans ses amours.
Et
dans sa passion et dans ses engagements. Mmh. Mais justement, puisqu'elle est dans la constance dans ses idées suivent le temps et les époques. Donc elle s'adapte et elle réagit en tant que telle. C'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un de très vivace.
Et c'est quelqu'un qui est très ancré dans le présent également.
Oui, elle est très ancrée dans le présent, dans ce qui se passe, dans l'actualité, dans la politique, dans l'art. Elle est curieuse de tout et donc elle réagit. Elle réagit constamment et d'ailleurs c'est une constante chez elle. Elle dit qu'il faut qu'elle avance, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle s'intéresse. Et à la fin de sa vie, elle dit si elle avait un conseil à donner aux jeunes, je pourrais seulement leur dire ne soyez jamais des spectateurs. Partager, regarder, sentez, surtout participer. C'est ce qui naguère était atroce dans la vie des femmes. Elles étaient celles qui regardent du balcon.
Clara, avant sa rencontre avec Malraux, Clara Goldschmidt, jeune fille déjà révoltée contre l'ordre établi et l'infériorité imposée aux femmes, puis Clara Malraux, qui vécut avec son mari, son compagnon, préférait-elle dire, ses premiers combats politiques. Malraux, la passion d'une vie, l'amour d'au-delà de la rupture, malgré des aventures souvent durables, Jean, son compagnon de résistance, torturé et exécuté, Duvigneault, Jean encore, et d'autres hommes, plus jeunes qu'elle, toujours, dont elle a exalté le courage et le talent. Clara, après Malraux, seule, avec sa petite fille Florence, tant aimée, femme courage, engagée dans la résistance, ne pas acceptée, disait-elle. Clara, plus tard, militante, aux côtés de Marek Alter, pour la paix en Palestine.
Il me semble tout de même qu'il fallait que j'existe.
Clara Malraux.
Que je sois moi.
1969.
Et puis, naturellement, notre génération était mal préparée à cela. Et alors nous étions, je le vois à travers ma fille et ses amis, et puis d'autres jeunes que je connais, beaucoup plus agressives. Aujourd'hui, je crois qu'on peut devenir soi et ne pas être agressif et ne pas avoir les griffes toujours en avant. Moi, j'avais toujours un peu les griffes en avant, j'avais toujours l'impression qu'on voulait me prendre à moi-même.
Intensité de l'amitié, de la passion pour les rencontres, le partage des idées et l'intuition des talents à éclore. François Nourricier.
Florence et moi, nous avons vécu 3 années et demie ensemble. C'est important. Pour elle, je ne sais pas, mais pour moi, c'était important. Et à cause d'une phrase que je lui ai dit, maintenant, tu m'as beaucoup parlé de ta mère, j'aimerais bien la voir. Alors la première chose qu'on va faire en rentrant à Paris, tu vas me montrer ta mère. Nous sommes allés dîner au 17 rue Berthollet, dans le 5e arrondissement, dans un immeuble un peu festonné, chez Clara. Alors Clara m'a ouvert la porte. Petite porte, petit palier, petit couloir, tout était petit, elle aussi. Ça donnait une grande impression de bohème. Si le mot a un sens, c'était la bohème. C'est-à-dire qu'on sentait le romanesque autour d'eux, et on sentait qu'elle pouvait en parler pendant des heures, et en même temps, ça la dissimulait complètement. On a commencé, je suis venu vers 7h du soir avec sa fille, on a commencé par bavarder comme ça. Puis tout d'un coup, il était 1h du matin, on bavardait toujours. Je crois que Florence s'était endormie depuis longtemps sur un canapé en disant « Ouh là là, je les connais toutes, les histoires. » Alors, cette espèce d'amitié à trois, cette espèce de fausse belle-mère, tout ça a duré quand même beaucoup d'années. C'est pour ça que je peux difficilement faire l'impasse sur un morceau de ma vie. Et un morceau de ma vie qui a été un bon morceau.
Rue de l'Université, où Clara Malraux vécut les dernières années de sa vie, au plus près de sa fille Florence. Claude Kieschmann, qui fut sa voisine de palier, se souvient.
Et c'était un appartement qui lui ressemblait, en ce sens qu'il y avait des souvenirs de toute sa vie, de ses voyages, souvenirs multiples, si vous voulez, de ce qu'elle avait pu voir et aimer, le Cambodge, l'Asie, la Perse. La Perse qui a été une de ses passions, un peu fouillie toujours, très original, avec quelques toiles intéressantes et qui venaient d'ailleurs, parce que l'ailleurs avait une grande part dans sa vie. Je crois que c'était quelqu'un qui était très cosmopolite avant tout. Et...
C'était une femme libre, comment vous la définiriez, Jean Lacouture ?
Peut-être rebelle. Peut-être que le mot rebelle serait encore plus juste que le mot libre. Je crois que sa conquête de la liberté a pris la forme de la rébellion. Par rapport au sexe fort, par rapport à l'ordre bourgeois dominant. Oui, je pense que Clara, on peut la définir comme une rebelle.
Ce n'est pas un personnage de la mondanité parisienne, même littéraire. C'est une femme qui a
François Nourricier.
Connu la révolte. Elle a connu l'éducation bourgeoise. Elle a été élevée dans une petite maison, aujourd'hui disparue, de l'avenue des Chalets, qui est à 200 mètres d'ici. Mais elle a vécu là une enfance de petite bourgeoise franco-allemande, d'une famille de... Quel est le mot pour le cuir ?
Pelletier.
Pelletier. Dont elle n'était ni fière ni honteuse, ils étaient négociants en cuir.
Effectivement, enfin, elle est dans une famille, c'est vrai, disons bourgeoise.
Claude Kieschmann.
Mais venue d'ailleurs, et ça, ça a beaucoup d'importance parce que, quand elle naît en 97, ses parents ne vivent en France que depuis moins d'une dizaine d'années. Son père est une forte personnalité et on la laisse assez libre quand même, si vous voulez. Il y a une espèce de liberté qui règne dans cette famille et qui n'est mise en échec, en quelque sorte, que par les Frauen, c'est-à-dire les gouvernantes qui viennent et qui sont des Allemandes rigides et qui font marcher au pas Clara et ses sœurs. Elle en souffre d'ailleurs beaucoup, mais elle se distingue très vite parce qu'elle a conscience, si vous voulez, à la fois d'être binationale, enfin, elle a une culture aussi, il y a une empreinte très forte de l'Allemagne dans sa culture dès l'enfance, et en plus elle est juive et elle va en prendre conscience assez tôt. Donc, comme elle a ce tempérament un peu révolté, un peu différent des jeunes filles de son âge, il faut dire aussi qu'en Allemagne, les filles sont élevées d'une manière plus libre qu'en France. Donc, je pense que ces vacances, les vacances qu'elle passe en Allemagne, chez ses grands-parents, et avec cette grand-mère dont elle apprend plus tard qu'elle a eu une vie extrêmement aventureuse, joue sur elle, et ce qui fait qu'elle est plus ouverte que les jeunes filles ou les enfants qu'elle côtoie en classe ou qui sont ses amis d'enfance. Elle est déjà plus mûre, plus ouverte, plus curieuse. C'est la curiosité, je crois, chez Clara.
Oui, d'ailleurs, elle disait « Ma passion a toujours été d'avancer dans la connaissance ».
Oui, c'est vrai. Elle lit beaucoup et elle essaye d'apprendre par tous les pores de sa peau et d'une manière physique presque. Physique et intellectuelle, parce que c'est vrai qu'elle est très habile intellectuellement. Mac Jacob dira plus tard qu'à Malraux, que vraiment, il la trouve extraordinairement intelligente.
Mais alors, j'avais six mois quand on m'a installée dans une villa à Passy.
Clara Malraux, 1969.
Avec un jardin, c'était un petit passage. En face de nous habitait un monsieur pour qui on avait beaucoup de respect. Lui-même avait une grande barbe. Et j'ai appris à travers les discours, à travers les conversations de mes parents et à travers le déminage que les domestiques en faisaient, que ce monsieur s'appelait Monsieur Jaurès. Il avait un fils qui s'appelait pour moi Loulou et pour les autres Louis. Et j'ai passé tout de même une grande partie de mon enfance à jouer avec ce petit garçon. Quand M. Jaurès rentrait, c'est-à-dire papa, on nous disait de ne pas faire de bruit. Et c'était d'autant plus saugrenu que ce monsieur montait à l'étage au-dessus de nous, il marchait de long en large et il gueulait. Et je l'ai dit dans mon premier livre, c'est très curieux, j'ai su assez vite que ce qu'il disait, c'était des paroles de générosité. C'était des paroles qui, dans une certaine mesure, s'adressaient aux hommes, enfin aux hommes dans le grand sens, quoi. Et puis, il gueulait, comme j'ai dit, avec pas beaucoup d'élégance, mais c'était très beau aussi, c'était une voix très profonde. Et plus tard, il me semble que certaines idées, mettons, de gauche que j'ai eues, étaient liées au son de cette voix.
Elle était aussi un peu aventurière, un peu aventureuse, plutôt, dans sa tête. Parce que ce qu'elle a fait, tout le monde ne l'a pas fait.
François Nourricier.
Elle poussait les choses et les gens jusqu'au bout. Ça, c'était assez formidable. Des gens que j'ai connus un peu amateurs, comme ça, comme quelqu'un comme Edgar Morin. Edgar Morin, elle en aurait fait un lion. Elle avait ce pouvoir d'allumer un feu sous les gens et de l'entretenir. L'entretenir, ça c'était très important.
Et puis je ne sais pas, j'avais tant rêvé comme enfant. Vous voyez, vous me dites, est-ce que vous pourriez écrire une œuvre de fiction? Mais comme enfant, je faisais que ça.
Clara Malraux, 1977.
Je me promenais tous les jours autour du lac, j'avais une gouvernante, et nous faisions tous les jours le tour du Grand Lac, tiens, du Grand Lac du Bois de Boulogne. Et je racontais tous les jours un conte de fées que j'inventais à mon frère. Alors, à l'époque, l'imagination ne me faisait pas défaut. J'ai toujours écrit, et peut-être jusqu'à ma vie avec André, ou peut-être le réel s'est tellement emparé de moi que la fiction a diminué. Jusque-là, j'inventais. Peut-être qu'après, j'ai inventé ma vie.
Elle va s'engager auprès d'un homme,
Claude Kirschmann,
qui va être, lui, un homme d'action, mais qu'elle va pousser à être un homme d'action aussi. Donc, elle est dans le mouvement. Ça l'entraîne à l'action. L'homme qu'elle va choisir, c'est pas un bourgeois, c'est plus un aventurier, parce qu'elle a envie de vivre des aventures.
L'aventure, elle l'a peut-être vécue en épousant André Malraux, plus jeune qu'elle.
Jean Lacouture.
Et d'un milieu incertain, plutôt pauvre, alors qu'elle était d'une famille d'assez large aisance. Une dame d'Auteuil qui épouse un monsieur de Bondy. Je crois que c'est le climat.
C'est une héritière. Hein. Elle a de l'argent, elle est élégante, elle est coquette. Elle a déjà eu des expériences amoureuses pas abouties, mais enfin, je veux dire, elle sent qu'elle pourrait, elle le dit d'ailleurs, qu'elle va aimer l'amour. Et quand elle rencontre Malraux, qui a 19 ans, elle en a 24, elle a donc plus d'expérience, elle va le faire d'une certaine manière, c'est vrai, elle va avoir une grande influence sur lui. À la fois, je pense qu'elle elle va le dominer presque physiquement au départ, dans son envie, son désir de lui, qui n'apparaît pas tout de suite, mais elle le choisit, enfin. Le portrait qu'elle en fait dans ses mémoires, je peux aussi vous le lire d'ailleurs. Alors, la première fois qu'elle le voit, c'est un jeune homme inconnu, donc. Et elle le décrit, c'est un très long et mince adolescent aux yeux trop grands, dont les prunelles ne remplissent pas l'immense globe bombé. Une ligne blanche sous l'iris d'un verre délavé. Plus tard, je lui dirai, vos yeux plafonnent. Plus tard, je penserai à ces ancêtres marins qui devaient avoir ce regard lointain. Plus tard, j'ai pensé à ces sottements sans doute. Il ne sait pas regarder les gens en face. Et elle ajoute, un peu plus loin, c'est lui qui, pendant des années, comptera plus pour moi que tous les autres êtres. À cause de lui, j'abandonnerai tout, comme les évangiles l'exigent de ceux qui aiment. Tu quitteras ton père et ta mère.
Clara Malraux, 1977.
Je sentis qu'il avait du génie. On aura beaucoup de mal, je crois, plus tard, à sentir la fascination qu'il existait. C'était indépendamment, peut-être même, de ce qu'il a créé. Il s'emparait de vous.
Ils sont partis avant de se marier, puisque ça, c'est un épisode très drôle. Il s'enfuit, en fait. Et il lui avait dit, ça, je crois que c'est un épisode très important, j'en avais pas parlé jusqu'à présent, mais elle lui fait découvrir l'Italie. Hein. Elle lui parle de l'Italie, et il lui dit comme ça, quand ils se connaissent, presque le premier jour, « Ah ben, je vous accompagnerai la prochaine fois que j'irai avec vous. » Et un jour, elle lui dit « Je pars en Italie. » Et il lui dit « Effectivement, ben, je viens. » Et il se retrouve dans le wagon-lit. Elle n'a pas dit évidemment à sa mère ni à personne de sa famille qu'elle allait partir avec un jeune homme. Et elle monte dans son wagon-lit et André Malraux la retrouve. Et ils passent leur première nuit d'amour dans le train. Et là, ils découvrent effectivement cet enchantement qu'elle... c'est la découverte des corps. Et puis, elle envoie un télégramme. Ils arrivent à Florence, parce que c'est Florence qu'elle veut lui montrer. Ensuite, ils continuent de voyager, et ils passent un certain nombre de jours et de semaines en Italie. Et puis, elle écrit tout d'un coup à sa mère, « Nous sommes fiancés. » Grand scandale. La mère lui dit, « Reviens tout de suite. » Et effectivement, elle revient, ils reviennent, et la mère est à la gare avec la tante et toute la famille. Et voilà comment se passe le retour qu'elle raconte, je trouve, d'une manière très succincte, mais très, très drôle. À la gare, maman m'attendait avec ma tante Jeanne, celle que les choses de la chair intéressent si intensément et si vainement. Ma tante Jeanne m'a dit, est-ce que ça vaut la peine? Maman m'a dit, est-ce que tu es heureuse? Mon frère Maurice ne m'a pas demandé si j'étais heureuse. Assis sur son lit en train d'essayer d'enfoncer dans une chaussure trop étroite un pied inhabile, il m'a dit « Tu nous as déshonorés, je pars pour l'Amérique ». Je lui ai dit « Mets d'abord tes chaussures ».
Florence sera le nom choisi par André Malraux pour sa fille, en souvenir d'une ville où ils furent heureux.
Il était très étonnant par l'immensité de sa culture, qui n'était pas une culture universitaire, mais une culture absolument selon ses goûts et selon ses intérêts.
Clara Malraux.
Ce qui, évidemment, me séduisait énormément. Et ensuite, il était, et cela aussi me séduisait énormément, aussi peu conformiste que possible. Il faut dire que j'étais une petite fille qui avait été formée sur, si je peux dire, des terreaux très différents, mais enfin, tout de même, quelqu'un qui était récemment implanté en France. Mes parents étaient d'origine allemande, j'étais juive, et j'ai connu, enfin presque constamment, une espèce d'enracinement et de dépaysement, puisque moi, petite juive, j'ai été élevée dans une école qui était presque un couvent, ça s'appelait Sainte-Clotilde, et nos professeurs, nos enseignants étaient des religieuses défroquées, puisqu'à cette époque-là, le droit d'enseignement des religieux était très limité. Si bien que je sentais très fortement que je ne ressemblais pas tout à fait aux autres. Et alors ce garçon, qui venait lui aussi de tout à fait ailleurs, qui, malgré ses origines, alors elle typiquement française, était quelqu'un qui ne me paraissait pas avoir de tellement profondes racines.
Elle lui ouvre l'Europe un peu, c'est une Européenne aussi.
Claude si Kirschmann.
Elle est attirée par tout ce qui est étranger, lui est beaucoup plus dans sa culture française qui est très grande. Sûrement, supérieure d'ailleurs à celle de Clara. Elle reconnaît, mais ils ont un échange constant. Ils trouvent quelqu'un à sa mesure.
Dans votre biographie d'André Malraux, Jean Lacouture, vous accordez une place importante à Clara Malraux, alors que vous ne signalez l'existence et la disparition de Josette Clotis, sa seconde épouse, que par de brèves notations. Est-ce que cela signifie que Clara fut importante dans la formation de l'homme et écrivain Malraux, qu'elle connut très jeune, il avait 19 ans?
Importante me paraît faible. Je crois que le vrai mot, c'est capital. Je pense que Clara a été vraiment une éveilleuse du génie d'André Malraux. Elle est arrivée dans sa vie, elle a survenu vers 1919, au moment où André Malraux est un garçon de 18 ans qui est magnifiquement doué, qui cherche, qui ne sait pas très bien où il en est. Il a une culture très incertaine, il n'a pas achevé ses études, il est un des rares grands écrivains français des deux derniers siècles à ne pas avoir passé son bachot, et il sait beaucoup de choses, c'est un formidable grappilleur, il lit les livres en travers, de haut en bas, de bas en haut, mais il est quand même très incertain dans ses connaissances, et il rencontre quelqu'un, Clara, qui a deux ou trois ans de plus que lui, et qui est quelqu'un qui est déjà très solidement formé, qui connaît admirablement le monde de la littérature, de la philosophie. Ses origines allemandes ont contribué à l'ouvrir sur beaucoup de ces domaines, du point de vue musical aussi, enfin, du point de vue pictural. Et Malraux rencontre son aîné un peu par l'âge, beaucoup par la culture, et elle sera le premier professeur d'art et de littérature d'André Malraux.
Je n'aurais pas voulu que mon fils se marie si jeune, dit mon beau-père, au cours de la visite protocolaire qu'il rendit à ma mère. Mais puisque ses enfants nous mettent devant le choix accompli, nous n'avons pas le choix. Il aurait pu se dispenser de cette phrase, me dit maman. Elle est charmante, dit mon beau-père à son fils, et très simplement habillée pour une juive. J'avais fait moi-même la robe blanche sur laquelle se promenaient de petits personnages noirs et égyptiens. Il mène plutôt joyeuse vie qu'une fois marié. Il pense même faire fortune. Il joue au casino, il joue, etc. Il achète des actions. Puis un jour, André lui dit qu'ils sont ruinés. Alors, il faut quand même travailler, lui dit. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Ça commence comme ça, elle raconte. Malraux lui dit, vous ne croyez tout de même pas que je vais travailler? En effet, je ne le crois pas, mais alors? Alors, connaissez-vous le chemin qui suivait de Flandre jusqu'en Espagne les pèlerins de Compostelle? Ce chemin était jalonné de cathédrales qui, pour la plupart, sont parvenues jusqu'à nous relativement intactes. Mais il existait sûrement, en plus de ces grands sanctuaires, de petites chapelles dont beaucoup ont disparu. Ah, fige, c'est Clara, hein. Je n'avais jamais réfléchi à la question. Eh bien, continue Malraux, du Siam au Cambodge, le long de la voie royale qui va de Dangkrek à Angkor, il y avait de grands temples, ceux qui ont été repérés dans l'inventaire. Mais il y en avait sûrement d'autres, des petits encore inconnus aujourd'hui. Eh bien, nous allons dans quelques petits temples du Cambodge, nous enlevons quelques statues, nous les vendons en Amérique, ce qui nous permettra de vivre ensuite tranquille pendant 2 ou 3 ans. Ça, c'est ce que raconte... ce qu'écrit Clara dans ses mémoires.
Sérénade indochinoise, au refrain chargé d'extase, je l'entends très souvent près des rizières de Chine. Les chansons semblent divines et l'amour pour toujours.
Quel souvenir gardez-vous de cette aventure indochinoise avec tous les ennuis qu'elle a pu
comporter? Quelque chose qui a été très pénible et merveilleux.
Pénible pourquoi?
Clara Malraux, 1969.
Pénible parce que, d'abord, ça m'a coupé les miens auxquels je tenais beaucoup. Parce que les conditions matérielles qui ont suivi l'aventure elle-même... Vous savez, ce qui suit l'aventure est souvent très difficile. Alors, les conditions qui ont suivi ont été dures. Ça a été l'hôpital, ça a été le mépris de gens que je méprisais d'ailleurs. Enfin, ça a été des choses assez pénibles. Mais l'aventure en elle-même, et même dans une certaine mesure, cette façon d'être retranché des gens avec lesquels nous ne voulions rien avoir à faire, à travers lesquels nous aurions peut-être eu affaire si... parce qu'on est tout de même un peu lâche. Si on ne nous en avait pas coupé radicalement, ça, je trouvais ça beau.
Là, le départ, justement, vers le temple, si vous voulez, quand ils sont donc arrivés, ils partent d'Angkor, après quelques mini-aventures. Un jour, nous sommes partis, coiffés de nos casques, vêtus de toile, harnachés de bouteilles, d'appareils de photos, de boussoles, nos poches bourrées de sucre, pour ma part, un peu angoissées. Nous décidâmes de nous diriger vers Bandar Srei. Que reste-t-il du temple, du sanctuaire? S'est-il effondré sous les lianes? Personne n'en a plus jamais parlé depuis 1916. Nous partîmes à cheval, les pieds de mon compagnon touchaient le sol, entaillés d'ornières humides barrées de troncs déchiquetés. Derrière nous, quatre chars bâchés, au timon cornu, tirés par des buffles gris, hochant leurs têtes d'antilope, chacun pourvu de deux conducteurs vêtus de pagnes. Ainsi marchions-nous à la queue leu-leu sur un filet de sentier perdu dans la brousse.
Nous avions entendu parler de ce temple auquel les gens semblaient ne pas attacher grande importance. Nous n'en avions même pas vu des photographies. Nous savions qu'il était relativement petit, ce qui nous paraissait préférable. Nous savions qu'il était à une distance que l'on pouvait atteindre, et en effet on pouvait l'atteindre malgré la possibilité des moyens de transport. Aujourd'hui on y va en quelques heures en auto, mais nous avons mis 2 jours et demi, ça pouvait encore se faire. Et c'est justement comme nous ne savions pas exactement ce que nous allions trouver que nous avons été éblouis. Et on s'est trouvé dans cette espèce de tout petit temple, tout rose, tout seul, tout embroussaillé. C'était extraordinaire.
Qu'il découvre comme ça après des heures passées à cheval, une porte s'ouvrait dans la broussaille, sur une petite cour carrée aux dalles arrachées. Au fond, écroulé en partie, mais dressant néanmoins sur deux côtés des murailles encore affirmées, un temple rose orné paraît. Trianon de la forêt, sur lequel les taches de mousse semblaient une décoration, merveille que nous n'étions pas les premiers à contempler, mais que nous étions sans doute les premiers à regarder ainsi, suffoqués par la grâce de sa dignité, plus beau que tous les temples que nous avions vus jusque-là, plus émouvant en tout cas dans son abandon que tous les Angkor polis et ratissés. Nous avons avancé, silencieux, comme des enfants auxquels on vient d'offrir un cadeau qui comble leur espoir. Les devants tassent nous regarder, tête un peu inclinée. Nous avions touché ce qui nous appartenait. Elle décrit très bien, quand même. C'est très on voit les choses, je trouve. Vous ne trouvez pas? Je trouve que c'est... c'est une conteuse, en fait, Clara. Hein, ce n'est pas une romancière, ce n'est pas une moraliste, mais c'est une conteuse.
Qu'est-ce qui leur serait arrivé à ces pièces? On n'était pas venus. Il y avait, on savait qu'elles existaient. C'était exactement tout. Je ne sais même pas si elles étaient classées. D'ailleurs, ça m'est égal. Mais on n'avait rien fait pour elles. Et comme tout de même, elles étaient plus loin que nombre de temples pour lesquels on n'avait rien fait encore. Il y avait peu de chance qu'avant un temps, qu'on peut mal préciser, on aurait fait quelque chose pour elles. Et à l'heure actuelle, je pense que si nous n'avions pas été là-bas, ça serait complètement recouvert de brousse, puis on n'en parlera jamais, quoi. Ça ne serait jamais venu au jour, quand on l'aurait trouvé, il ne resterait rien.
Comment en parlait-elle de l'aventure indochinoise?
Oh, comme d'une histoire marrante, comme d'une bande dessinée.
François Nourricier.
C'est une bande dessinée... Elle dit je sais tout sur le rayon du bon marché, du bazar de l'hôtel de ville, où on achetait des scies égoïnes, les seules qui ne cassaient pas leurs dents sur la pierre heureusement tendre d'Angkor. Elle rigolait. Ça, c'est quand même l'avantage d'être juif. Elle voyait le côté ridicule des choses en même temps que leur côté courageux.
Mais elle ne peut pas résister à l'aventure. Et elle va aussi, quand Malraux va être emprisonnée, enfin pas emprisonnée, mais en résidence surveillée au Cambodge, et qu'elle revient en France sur le bateau après les aventures qu'elle a eues. D'abord, elle plonge dans une aventure amoureuse, alors qu'elle est mariée à Malraux et qu'elle devrait être fidèle, mais elle ne l'est pas. C'est pas non plus dans sa nature, mais si vous voulez, pour elle, ça n'a pas d'importance. C'est toujours cette manière de réagir
un peu comme ça, dans le moment. Et ensuite, quand elle rentre à Paris, c'est elle qui va sauver Malraux en courant partout, en allant trouver les gens qu'il faut et en ne lâchant personne pendant des jours et des jours pour que des pétitions soient envoyées aux journaux et pour que son mari gagne son procès, revienne en France, etc. Mais il faut qu'elle s'engage, Clara Malraux.
Dans l'affaire, elle n'est pas passée en jugement. Les seuls des trois, Malraux et Chevasson, sont passés en jugement. Je dis au passage que mon oncle étant alors procureur de la République à Saïgon et a contribué à faire condamner André Malraux, mais ça a créé un lien que je lui ai rappelé une fois, il n'a pas apprécié d'ailleurs. Mais le fait est que Clara n'est pas passée en jugement et qu'elle a pu rentrer en France, mener en France une campagne magnifique auprès des écrivains pour la libération de son mari. C'est magnifique.
Oui, ça a été un moment assez dur pour moi. Et même maintenant, l'évoquer ne m'est pas particulièrement agréable. Mais enfin, il fait partie de ce qu'a été ma vie. Nous habitions alors boulevard Berthier. Nous avions un atelier. Cet atelier a été relié par un escalier à une chambre qui se trouvait à l'étage au-dessus. La porte de cette pièce était ouverte. Je montais à porter, je suppose, des apéritifs à André, qui était là-haut avec un de ses amis. Et j'ai entendu, tandis que je montais les marches, la voix de notre hôte dire « Mais enfin, qui est intervenu pour votre libération en Indochine? Qui a arrangé le procès ?» Ce qui signifie en somme qui a fait faire la pétition. Et j'ai entendu André répondre « Ce sont les Annamites. »
Et malgré cela, vous êtes resté.
Ah oui, parce que je m'amusais trop avec lui.
Et ce sont des aventuriers.
Jean Lacouture.
Qui me sont, et peut-être vous, sont sympathiques. Ce sont des aventuriers et quelque peu des voleurs. Mais très vite, l'aventure va tourner à une manifestation, à un témoignage anticolonialiste qui aboutira à ce journal, l'Indochine enchaînée, qui est là un acte de courage très grand, parce que vraiment affronter le pouvoir colonial dès cette époque, ça mettrait beaucoup plus tard dans les circonstances, c'était beaucoup plus facile, parce que la colonisation était profondément blessée quand je m'en suis occupé. Quand ils ont affronté le régime colonial, il était à son apogée. Dans les années 24, 25, 26, Albert Sarraut étant gouverneur général, enfin, c'était vraiment l'apogée du pouvoir colonial. Ils s'y sont opposés, et elle comme lui, et avec non seulement une certaine indignation pour l'injustice qui régnait là-bas, mais aussi une conscience politique assez affinée. Ils étaient l'un et l'autre déjà entrés dans un certain cycle révolutionnaire qui n'avait pas pris, pas encore pour autant que je sache, sa forme marxiste, mais qui était l'esprit de révolution en tout cas.
À la fois, nous étions vraiment profondément liés à la cause des Annamites. Ou du moins,
Clara Malraux.
Nous nous sommes sentis liés le temps aidant, connaissant les gens, connaissant la situation, découvrant des choses vraiment assez atroces, n'est-ce pas? Nous nous sommes sentis très fortement liés. Et en même temps, peut-être parce que nous étions jeunes, peut-être parce qu'il y avait tout de même aussi beaucoup d'autres pôles à nos intérêts, alors il y avait dans tout ça, du fait de notre jeunesse même, un merveilleux côté jeu. En fait, je dirais presque que nous jouions à vivre. C'était une sorte d'énorme farandole. On se donnait la main. On se donnait la main dans le pathétique, mais on se le donnait aussi dans la joie, dans la rigolade, dans la taquinerie des autres, dans la provocation.
Clara était réellement, se vivait comme une militante anticolonialiste.
François Nourrissier.
C'est vrai. Malraux aussi, Malraux se vivait comme un poseur de bombes. Ces gens ont été sincères.
Je crois que la marche se démontre en marchant. C'est pas de moi. Et la conscience révolutionnaire se développe en faisant des gestes révolutionnaires. C'est toujours un peu l'histoire de Pascal. On s'agenouille, on finit par croire. Eh bien, notre aventure, c'est une aventure pascalienne. Nous nous sommes battus, puis nous avons cru en ce pourquoi nous nous battions.
Clara Malraux s'est engagée dans tous les combats du XXe siècle.
Tous.
Jean Lacouture.
Tous. Elle n'était pas contrainte à s'engager dans le combat anticolonial. Elle a été quelque peu contrainte, mais elle l'aurait fait, eût-elle été une autre origine. Il est évident que Clara, qu'elle fût Goldschmidt à l'origine, ou qu'elle fût Martin ou Missonnier, serait entrée dans le combat anti-nazi. C'était conforme à l'esprit de dignité qu'elle avait, à l'esprit démocratique qu'il habitait. Donc, de toute façon, ce combat-là... dans lequel ils entrent à peu près ensemble et moins pour des raisons de la lutte au départ de la lutte contre le racisme que de la lutte contre le pouvoir autoritaire, contre le fascisme. Et ils sont déjà antifascistes clairement avant la prise de pouvoir par Hitler en janvier 1933. André Malraux sera un des premiers à écrire pleinement l'un des premiers grands articles contre l'avènement d'Hitler et du nazisme, et Clara tient le stylo en même temps que lui, crie, non, là c'est la guerre a commencé.
Qu'est-ce qui a entraîné, selon vous, Claude Kirschmann, la dégradation des rapports entre André Malraux et Clara? Est-ce que les événements historiques ont eu leur part?
Je pense que c'est peut-être question de tempérament, de caractère. Je pense que d'abord, il y a le rapport personnel, le fait qu'elle l'ait trompé. Et ça, je crois qu'il lui a jamais pardonné. Que ça a été une blessure. D'ailleurs, elle le raconte très bien. Elle le voit pleurer et je pense que Malraux n'a pas compris. Elle, pour elle, ça n'avait pas vraiment d'importance, puisqu'elle était vraiment habitée par cet homme et par cet amour. Alors, les événements, non, je ne pense pas que... Puisqu'ils ont été au contraire... dès qu'ils voyagent ensemble, dès qu'ils partagent une expérience commune, ça va bien. Mais il faut qu'ils soient... plutôt en tête-à-tête, hors de leur milieu, du milieu parisien et peut-être du milieu intellectuel dans lequel ils vivent, et qu'ils soient dans des circonstances un peu exceptionnelles. Ils vont avoir des divergences politiques, lui en Russie, il se laisse prendre par l'apparence, peut-être aussi par les honneurs, la manière dont il est traité... comme écrivain français. Oui, il a une aura qu'elle n'a pas. Donc, est-ce que après, pendant la guerre d'Espagne aussi, elle est beaucoup plus près des trotskistes ou des anarchistes que Malraux, qui est plus près, suit plus la ligne de Moscou. Là aussi, il y a des divergences.
De quelle nature ont été leurs rapports, Jean Lacouture? Vous parlez, à propos des relations entre Clara et André Malraux, d'ambiguïté ardente, ambiguïté.
Parce qu'il me paraît correspondre à la nature de leur relation, qui ont indubitablement été amoureuses. Mais dès les années 20, il y a des compétitions à propos de l'art et de des relations à l'art, je crois, et des capacité créatrice de l'un et de l'autre. Après tout, Clara a été d'une certaine façon la mère nourricière du génie d'André, et très vite, le génie d'André la supplante. C'est vrai que à partir de la condition humaine, André Malraux devient, entre guillemets, grand écrivain. Elle n'a jamais été un grand écrivain, c'est une femme merveilleusement intelligente, cultivée, de talent, mais elle n'a jamais crevé cette certaine coquille qui est que Tout le monde vous connaît à une époque. Elle, ce n'était pas son cas. Elle restait Clara Malraux. D'ailleurs, à noter, si André n'a pas toujours été très convenable avec elle, à divers points de vue, il l'a encouragée à garder ce nom en lui disant « On peut dire que vous ne l'avez pas volé. »
Clara aime écrire, elle veut écrire, c'est sa passion. Elle commence par traduire, mais... elle reste malgré tout modeste, c'est pas quelqu'un qui se prend pour un grand écrivain. Et d'ailleurs, ce qu'elle écrira de mieux, c'est sa vie, et c'est vraiment ce qu'elle a écrit.
d'important. Elle a écrit d'autres choses qui sont des reportages, des choses mais plutôt secondaires. Alors que ses mémoires, c'est vraiment un témoignage non seulement d'une vie, de leur vie, mais d'une époque. Et là, c'est une mémorialiste. Enfin, elle a, mais elle n'est pas dans l'imaginaire. D'ailleurs, elle le dit qu'elle est trop, elle n'est pas, elle ne peut, elle n'est pas, elle ne se prend pas pour une romancière.
L'inégalité entre hommes et femmes était, oui, une des constantes des écrits et du combat de Clara Malraux.
Oui, alors c'est vrai que c'est une des constantes. Elle, on le voit dans le choix qu'elle fait sa première biographie, sa première traduction de biographie, qui est le livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Où Virginia Woolf justement parle de la condition des femmes et de la différence qu'il y a entre non pas la nature, mais la condition qui est faite aux femmes. Et puis son dernier livre qui s'appelle Raël, ma grande sœur, où elle raconte l'histoire d'une intellectuelle allemande du début du 19e siècle, fin 18e, 19e siècle, une femme, une juive comme elle, intelligente, allemande. Et d'où ce titre, Raël, ma grande sœur. Et là aussi, elle parle de cette différence et de cette injustice faite aux femmes.
Clara a été follement maladroite dans sa revendication.
François Nourricier.
C'était... Un jour, elle m'a dit... Bon, vous savez, les gens, quand ils sont au lit, ils sont en train de baiser, ils disent des trucs comme ça, c'est un peu bête. Un jour, j'ai entendu... Malraux qui disait « Toi, toi, toi !» Et moi, je lui ai répondu en criant « Moi, moi, moi !» C'est une parole étrange.
Il y a aussi qu'André m'avait appris qu'il y avait une chose que j'ignorais totalement, que je ne soupçonnais même pas, qui était la misogynie. Alors, à partir du moment où j'ai été averti que la misogynie existait...
Et comment vous en a-t-il averti?
Il me l'a dit froidement, comme cela.
Il vous a dit « je suis misogyne
» Il m'a... Enfin, d'abord, il a parlé de la misogynie des autres. Il m'a dit qu'il fallait être bien curieuse, en sotte, enfin, sotte peut-être pas, mais ignorante, pour ne pas savoir que tous les hommes étaient profondément misogynes, que d'ailleurs lui, entre autres aussi, enfin, il était toujours étonné, je l'ai écrit, je crois, de mon absence de bêtises. Mais à partir du moment où André m'a parlé de la misogynie, j'ai eu peur. Et je me suis aperçue qu'en effet, je ne sais pas si tous les hommes étaient misogynes, mais je sais qu'ils trouvaient naturel que je me taise quand mon mari parlait, quand il était là. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées à m'exprimer, évidemment, elles étaient très grandes du fait que j'avais toujours souhaité m'exprimer. Mon père me présentait à ses amis en disant « ma poétesse en herbe ». Et j'avais l'idée, enfin une espèce de persuasion que vivre, c'était pour moi écrire. André m'a dit un jour « il vaut mieux être ma femme qu'un écrivain de second ordre ». Je ne peux pas dire que ça m'ait fortement encouragé à écrire. Or, très curieusement, non pas cette phrase absolument telle qu'elle, mais une phrase quasi similaire, je l'ai retrouvée récemment en lisant le livre que l'on a consacré aux États-Unis à Zelda Scott Fitzgerald. De cette phrase-là, de l'attitude des gens qui l'entouraient, d'un sentiment d'écrasement et de non-existence, Zelda Scott Fitzgerald est purement et simplement devenue folle. C'est ma fille qui m'a remis ce livre. Elle a beaucoup tenu à ce que je le lise. Et quand j'ai eu achevé le livre, je lui ai dit, évidemment, c'est un livre qui me touche particulièrement. Je comprends aujourd'hui que si moi, je ne suis pas devenue folle, c'est vraiment que je n'en ai pas eu le temps. Au milieu de toutes les catastrophes, au milieu de toutes les difficultés auxquelles il a fallu faire face, l'histoire d'Indochine, la misère, la guerre d'Espagne, la guerre de 1939, le fait d'être juive, la résistance, des difficultés pour gagner ma vie, des difficultés pour élever mon enfant, j'ai vraiment pas eu le temps de devenir folle. Et les jours où ça allait moins bien, je me sentais une ombre, oui. Et cette idée d'ombre m'a hantée, puisque comme enfin un jour, j'avais rêvé que j'étais morte et que j'étais une ombre et que les enfants jouaient en me traversant. Très souvent, j'ai repensé à ça au cours de ma vie conjugale.
Alors, la période la pire, je crois, pour Clara, c'est au moment de la séparation avec Malraux, ces deux ou trois années.
Claude Kirschmann.
Entre 37-38 et la guerre, où certains de leurs amis se détournent d'elle, où elle va plus ou moins critiquer parce qu'elle se plaint, elle veut essayer de rattraper. Elle ne veut pas lâcher Malraux, elle ne voudra jamais le lâcher, en tous les cas dans sa tête, si vous voulez, dans son cœur. Même si elle peut dire beaucoup de mal de lui, d'ailleurs. Mais en même temps, c'est l'homme de sa vie. Hein. Et alors, il y a cette période-là où elle est effectivement seule, et où elle se sent seule. En plus, sa mère meurt à ce moment-là.
Se suicide.
Se suicide. Et en plus, après la guerre, peut-être il y a un moment aussi de flottement, parce qu'il faut qu'elle se débrouille toute seule avec Florence. Qui a à ce moment-là une dizaine d'années, et qu'elle n'a pas d'argent, et que là, le retour après la guerre est très dur. Elle vit dans des conditions d'ailleurs très difficiles.
Clara et André Malraux se sont séparés en 1938. Et Clara a combattu seule pendant la résistance, avec sa fille. Elle a sauvé sa fille.
Elle a sauvé sa fille, elle a été magnifique de courage à Toulouse.
Jean Lacouture.
Participant d'ailleurs, elle ne se contentait pas de sauver elle et sa fille, mais elle participait au combat aux côtés d'un groupe de résistance autour de gens comme Jean Cassou, qui était vraiment la grande résistance toulousaine, qui a été particulièrement admirable. Elle y a joué un très grand rôle, et en tant que militante révolutionnaire, et en tant que juive, et en tant que mère.
Il y a cet épisode qui est tragique pour elle aussi pendant la guerre, c'est quand Malraux, en pleine guerre, vient lui demander de divorcer, alors qu'elle est juive et qu'elle a une petite fille, leur fille, à sa charge. Et là, elle décrit d'ailleurs, elle raconte très bien, en peu de mots, cette rencontre avec Malraux à Toulouse. Ils ne se sont pas vus, Clara et Malraux, depuis plusieurs années. Et elle le revoit au mois de janvier 1941. Et lui vit avec Josette Clotis, avec qui il vient d'avoir un fils. Et il a demandé à Clara de la rencontrer. Et ils ont rendez-vous dans le centre de la ville. Et voilà comment Clara relate cette rencontre. André m'attend, main tendue, baiser sur le front, et puis très court silence. Alors demande-t-elle. Alors il faut que nous divorcions. Je ne veux pas d'un fils illégitime. Ça, c'est Malraux qui le dit. Et elle répond comme je voudrais que ma fille soit illégitime et qu'elle n'ait pas une mère juive. Clara demande encore à André s'il va prendre un contact avec un groupe illégal et il lui répond j'en ai marre de défendre des causes perdues. Et ils se quittent. Clara sanglote. Et pense, je viens de voir mourir un certain homme. Voilà, c'est la dernière rencontre entre Malraux et Clara. Et ils ne se reverront à peu près jamais plus. Et en plus, elle parle tout le temps de lui. Ça ne la quitte pas. Et lui ne veut même pas entendre prononcer son nom.
Vous êtes assez sévère, François Nourricier, à l'égard de l'attitude qu'André Malraux a eue vis-à-vis de Clara et de sa fille pendant la guerre.
Je crois que c'est une attitude qui appelle la sévérité, oui. La situation réelle, voyons-la. Clara, à 25 ans ou à 35 ou à 75... Elle avait l'air d'une femme juive, évidemment. Donc, sa simple présence dans la rue était un risque. Il le savait, Malraux. Il savait qu'elle risquait sa peau tous les jours. Et elle risquait celle de sa fille, qui étant atteinte en plus d'une scoliose qui la rendait à peu près inapte à la marche, marchait courageusement des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher un peu de ravitaillement, pour aller... loger trois jours chez des amis, etc. C'était une vie de scout courageux, quoi. Alors, quand on voit dans les journaux de Martin Dugard ou de Madame Théo Van Rysselberg et tout ça, quand on voit aujourd'hui longue visite chez André Malraux, ça, pendant que le maître d'hôtel sert, on se dit quand même, Malraux se préoccupait d'avoir des gants blancs pour le maître d'hôtel à ce moment-là. Oui.
Pendant la résistance, un épisode magnifique montre la noblesse de Clara. Des compagnons de combat lui demandent d'être l'interprète de l'interrogatoire de 12 soldats allemands qui ont été faits prisonniers. Le plus jeune a à peu près 17 ans. « Pourquoi vous répondrai-je ? » lui dit-il. « Vous êtes des francs-tireurs. Je sais que vous nous ferez fusiller tout à l'heure. » Fusiller cet adolescent, ces jeunes gens, mais c'est impensable pour Clara Malraux. Alors elle donne sa parole, lui, ses camarades, mais non, bien sûr. Mais le soir, elle apprend que les prisonniers seront exécutés à l'aube. Elle, qui a tant marché dans ses années d'errance avec sa fille Florence, de ville en bourgade, de bourgade en village, pour chercher un abri, un peu de nourriture pour son enfant malade, voici qu'elle se met en marche à nouveau. Dans l'obscurité de la nuit, Clara marche, elle marche, la peur au ventre, pour aller jusqu'au village voisin, prévenir l'aumônier du maquis, afin qu'il obtienne la grâce des jeunes prisonniers. « Je dois tenir ma parole », pense-t-elle. Sa parole fut tenue, les jeunes gens furent sauvés.
Ça, c'est aussi le grief que j'ai fait à André. Il avait une imagination conventionnelle. Il lui fallait des héros, et des héros qui sortaient de l'histoire de France. Moi, si j'avais inventé des héros, j'aurais plutôt inventé des contre-héros. Des types qui loupent tout. Pétache Lémil, vous savez, Pierre Lémil, le chamisseau. Il semble que l'anti-héros est plus humain. Il n'a jeté jamais de lui, cet homme. Génial, d'une telle intelligence. Il a beaucoup plus traîné son enfance avec lui que quiconque que j'ai connu. Il y avait quelque chose à compenser. Oh, je lui ai très souvent dit, vous devriez faire votre psychanalyse. Il me disait, oh, j'y laisserai mon talent. Je pense qu'il y avait des choses qu'André aurait dû élucider et qu'il n'a pas élucidé et que cet grand homme aurait été plus grand s'il les avait élucidées. Il fallait rejeter lui-même un certain enfantillage. Il n'a pas rejeté cet enfantillage. Dans une certaine mesure, André Malraux n'est jamais devenu tout à fait adulte. Il a toujours voulu être le premier de la classe. Mais moi, ça me fait marrer d'être le premier de la classe.
Un jour, elle m'a demandé, quelques années plus tard, « Mais dites-moi, François, parmi tous ces gens que vous voyez maintenant, vous devez voir de temps en temps, les Rothschild, vous les voyez de temps en temps ?» J'ai dit oui. Oui. Vous rencontrez chez eux, André ? J'ai dit oui. Ah, elle a dit le malheureux.
Elle rencontre Jean Duvigneau, qui va quand même avoir une place très importante dans sa vie, comme compagnon, avec qui elle va passer 13 ans, non pas dans une vie quotidienne, puisqu'il n'habite pas avec elle, mais enfin, ils voyagent ensemble, etc. Jean Duvigneau est quand même une personnalité, est un jeune sociologue. Elle prend toujours les hommes plus jeunes qu'elle. Hein.
Très jeune, puisque hein. Là, tout de même, elle a 50 ans, il en a 25. Donc, alors, la différence d'âge
oui,
est
très grande. Mais je crois que... Je pense pas que ça lui pose de problème, à elle, en tous les cas. Parce que, justement, elle a cette vitalité, cette curiosité, et qu'elle... Il faut qu'elle vive, hein. C'est quelqu'un qui s'accroche à la vie.
Et d'ailleurs, quand elle était s'engueulait avec Jean Duvigneau, elle l'appelait André aussi. C'était charmant. Elle disait, André, c'était de dire des bêtises.
Elle est effectivement attirée par ce qui est nouveau, et les jeunes lui apportent ce regain de vie, si vous voulez.
Clara Malraux participe également à Mai 68.
Alors elle participe aussi, effectivement, à Mai 68. Elle garde la maison des gens de lettres et elle est très contente. Elle s'amuse, elle a une espèce de une faculté d'émerveillement et d'amusement. Elle allait à des expositions, elle courait sur ses petites jambes avec parce qu'elle était très petite, hein. Elle mesurait 1m53 et c'est pas très grande. Et en plus habillée, elle avait toujours un petit bonnet tricoté sur la tête qu'elle peut-être tricotait elle-même. Puis alors elle avait été très élégante dans sa jeunesse. Hein. Elle s'habillait chez Poiret, C'était avant de connaître Malraux même. Enfin, elle était le jour où elle s'est mariée avec Malraux, elle portait un costume, un tailleur en velours noir de chez Poiret. Donc, mais après, elle était habillée un peu de briquet de broc, mais avec une certaine élégance, c'est-à-dire avec, elle mettait un gilet acheté à Katmandou, je ne sais pas. Enfin, elle allait beaucoup aux puces. Alors, elle se trouvait des choses un peu originales comme ça. Et elle était donc, si vous voulez, c'était pas une dame. C'était, elle avait un côté jeune fille.
Voilà. Bon, exactement là.
Oui.
Suzanne Lipinska, nous sommes avec vous au Moulin d'Andée, dans une chambre qui est restée tristement célèbre, parce que c'est la chambre de Clara Malraux.
Oui, j'oserais dire peut-être sereinement célèbre, parce que la mort de Clara était tellement douce que ça nous a presque rendu la mort familière. Et en plus, quand elle est morte, sa fille Florence était aux États-Unis avec Alain René. Et c'était la période de Noël, il n'y avait pas de place dans les avions, donc le corps de Clara est resté plusieurs jours. Et on avait pris l'habitude de venir la voir très tranquillement. Elle est morte totalement, sereinement. Et ce qui était très touchant, c'est que quand on l'a trouvée, elle avait les confessions de Jean-Jacques Rousseau dans une main et puis ses lunettes dans l'autre. Et avant de partir aux États-Unis, Florence lui avait dit « Ah, tu sais, tu devrais relire les confessions de Jean-Jacques Rousseau parce que c'est vraiment formidable. » Et elle est morte le livre à la main. Et quand on a appris comment... Enfin, la façon dont elle est morte, c'était très, très étonnant. Moi, je faisais beaucoup de piano à l'époque. J'étais avec un ami juste dans la pièce à côté. Et puis Clara n'arrêtait pas de sortir de sa chambre, elle allait prendre le thé, et puis à un moment on a pris le thé avec elle, puis elle est remontée, puis la porte claquait, puis cette amie me disait « Oh là là, elle en fait du bruit bon. ». Et donc le soir même, on l'attendait à table et puis on ne la voit pas venir. Donc je demande à quelqu'un d'aller voir si Clara n'avait pas oublié l'heure, ce qui était rare, parce qu'en général elle était toujours à l'heure. Et puis la personne revient en me disant « Mais je crois bien qu'elle est morte ». Et ma première réaction, ça a été de dire « Mais non, c'est pas possible, on vient de prendre le thé ». Et effectivement, elle était morte très tranquillement.
C'était en décembre 1982.
Oui, oui, oui. Elle avait toujours plein de souvenirs, elle était curieuse de tout le monde. Elle aimait beaucoup parler. D'ailleurs, il y a une petite anecdote... Le jour même de sa mort, on parlait de l'au-delà, disons. Et puis Clara avait déclaré d'un ton très péremptoire « Moi, ça m'est bien égal aller en enfer, au paradis, au purgatoire, peu m'importe, pourvu que je puisse parler. »
Oh, puis j'ai une nature combative, ça oui, je me battrai contre les moulins.
Clara Malraux, une intensité plus qu'humaine, par Françoise Esteb. Avec Claude Kiechmann, auteur d'une biographie de Clara Malraux, Marel Sel, éditeur, Jean Lacouture, auteur de l'ouvrage André Malraux, aux éditions du Seuil, François Nourricier, qui a préfacé « Et pourtant, j'étais libre », sixième livre « Du bruit de nos pas » de Clara Malraux, aux éditions Grasset, Suzanne Lipinska, du Moulin d'Andée, et la voix de Clara Malraux, archive INA, radioscopie de Jacques Chancel. Prise de son Bernard Quentin, Olivier Berotte. Mixage Valérie Lavalard. Réalisation Nathalie Trianda-Philides.
Oui, c'est drôle de vivre. Oui. Au fond, je trouve ça magnifique. Et de se battre. Jusqu'au bout, je me battrai.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 novembre 2007. Clara Malraux, l'aventureuse, de Claude Kiechmann, vient de paraître aux éditions Arléa.